Israël des Amériques et d'Haïti, tout de suite présenté par Mickaël Ponge. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion, merci. Les 9h10 à Port-au-Prince. Même les communautés religieuses sont maintenant visées. 7 représentants catholiques ont été enlevés hier en Haïti. Nouveau rapt, un de plus, on s'y arrête bien sûr. La droite reprend le pouvoir en Équateur. Le conservateur Guillermo Lasso s'impose à la présidentielle. La tâche s'annonce ardue pour celui qui prendra les rênes du pays le mois prochain, décrypte avec notre invité. On va revenir aussi évidemment sur les élections d'hier au Pérou. Et puis, dans une quinzaine de minutes, Benoît Ferrand, le journal de l'Outre-mer, les algues sargasses sont de retour.
Elles sont de retour, en effet, sur la côte nord-est de la Martinique, au grand dam, évidemment, des habitants concernés.
On voit ça avec vous tout à l'heure. Benoît, merci et bienvenue à tous.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
$1 million réclamés pour leur libération. En Haïti, les rapts contre argent rythment le quotidien de la population. La communauté religieuse n'est donc désormais plus épargnée puisqu'hier, 7 représentants catholiques, parmi lesquels 2 Français ont été enlevés. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Avant d'entendre une réaction, les détails avec vous, qui avez lu la presse haïtienne, hein, évidemment cela fait aujourd'hui les gros titres.
Oui, exactement. Selon le Nouvelliste, la zone métropolitaine de Port-au-Prince est confrontée à une vague de kidnapping. Ce week-end, vous l'avez dit, au moins 12 personnes ont été enlevées, en plus des 7 religieux catholiques, donc 5 prêtres et 2 sœurs. 3 membres de la famille de l'un des prêtres font partie des otages. Samedi soir, Mickaël, 2 autres personnes ont été kidnappées au sud de la capitale, à Delmas. Il s'agit d'un membre de la loge maçonnique Grand Orient d'Haïti et d'un médecin. En signe de protestation, la direction de l'hôpital Bernames où travaille le praticien a d'ailleurs décidé de fermer l'établissement pour les cas externes à partir de ce lundi. Seules les urgences resteront ouvertes. Concernant l'enlèvement des 7 religieux, la Société des prêtres de Saint-Jacques, contactée par l'agence Alter Press hier soir, a déclaré être sans nouvelles des personnes séquestrées.
Et l'émotion évidemment au sein des catholiques haïtiens est grande aujourd'hui, on s'en doute, hein, à l'image du témoignage du vice-président de la conférence épiscopale, Monseigneur Dumas, joint à Port-au-Prince par Jean-Baptiste Le Tondeur. Écoutez.
On est tous très touchés par ce qui s'est passé, bon, pas seulement aujourd'hui, mais depuis quelques temps. Le pays vit une situation terrible et maintenant on kidnappe des religieux. Et donc on est tous très touchés. On essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire et surtout on voudrait que ces gens puissent être relâchés, qu'ils puissent avoir la vie. Toute la communauté haïtienne est plongée dans une épouvante, une consternation. Nous sommes vraiment tous bouleversés par ce qui se passe actuellement dans le pays. Donc c'est pourquoi nous sollicitons de manière urgente et immédiate le soutien et la compréhension de la communauté internationale par rapport à la crise. On vit une situation anarchique, chaotique, et l'état de droit est en train de disparaître et on risque de laisser de côté tous les acquis démocratiques qu'on avait commencé à mettre sur pied depuis 1986 au départ de la dictature des Duvaliers. Et on a comme l'impression que le pays n'est pas dirigé, est abandonné, livré à lui-même, et que la population est larguée dans la nature. Donc tout le monde est très inquiet, et particulièrement il y a beaucoup de colère, et il faut que les choses changent, ça ne peut pas continuer comme ça, c'est trop.
On a vu, c'est vrai, ces dernières semaines, des tensions fortes entre la police et les autorités, des tensions à l'intérieur même de la police. Vous vous sentez victime collatérale de cette situation ?
Moi, j'ai l'impression qu'on ne vit plus une situation normale. L'ordre n'existe plus et donc les gens, ils s'attendent à n'importe quoi. Il faudrait aussi aider les gens à opter pour l'état de droit. Et surtout, il faudrait accompagner la population qui est la principale victime de tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays. Et les plus pauvres sont les plus touchés. Alors on a comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour eux. Et s'il n'y a pas d'espoir pour les plus pauvres, il n'y en aura pour personne. De notre côté, l'État qui est responsable même du maintien d'ordre, qui est responsable de la vie des gens et de la protection de leurs biens, eh bien, l'État doit faire tout pour protéger la vie de ces gens, mais surtout pour que la population puisse vaquer à ses besoins et que la population puisse vivre une vie normale. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de plaidoyers pour demander aux responsables d'assumer leurs responsabilités. Il faudrait un réveil de conscience de la part de la population, de tout le monde, pour qu'on puisse dire non et qu'on puisse dire trop, c'est trop, nous en avons assez, il faut arrêter et je dirais ces dérives.
Arrêtez ces dérives, faire cesser les enlèvements contre rançon en millions de dollars, je le disais, réclamé pour les religieux d'hier. Harim, que sait-on au juste de ces ravisseurs?
Eh bien, d'après le Novelliste, Michael, il s'agit du gang des 400 Maozo, une bande armée qui écume, croit des bouquets sans être inquiétée. Malgré les nombreux raids de la police dans cette commune près de Port-au-Prince, aucune arme n'a pu être saisie. Et toujours selon le Novelliste, l'activité des gangs s'est renforcée après l'évasion spectaculaire à la prison de la Croix des Bouquets le 25 février dernier. Plus de 300 prisonniers avaient pu s'échapper ce jour-là. Au ces derniers mois, d'ailleurs, les enlèvements, vous l'avez dit, contre rançon ont connu une forte recrudescence à Port-au-Prince, comme d'ailleurs dans le reste du pays. L'agence Altea Press rapportait ce week-end qu'un sentiment de psychose régnait désormais à Bel Air, c'est un autre quartier de Port-au-Prince, où les dernières attaques de gangs ont fait 13 morts et 5 disparus. Le Novelliste souligne que l'enlèvement d'hier intervient après les kidnappings spectaculaires de 4 personnes, dont un pasteur pendant un service religieux retransmis en direct. Et selon le quotidien de Port-au-Prince, la police n'est pas très motivée pour lutter contre le phénomène des gangs, alors que le Premier ministre Joseph Joude assure avoir adopté des, je cite, mesures impopulaires pour lutter contre le kidnapping.
Harim Lippold, merci pour ces précisions. À présent, la situation en Équateur.
RFI, Las Voces del Mundo.
L'Équateur qui votait hier, second tour de la présidentielle, et voilà que le pays tourne la page du socialisme et retombe dans le giron de la droite, puisque c'est Guillermo Lasso, le candidat conservateur, qui s'impose pour succéder à l'impopulaire Lénine Moreno. Avec 52% des voix, il bat son rival Andrés Arauz, le dauphin de l'ex-président socialiste Correa. Un scrutin que vous avez bien sûr suivi. Emmanuel Sinardet, bonjour.
Bonjour.
Professeur de civilisation latino-américaine à l'université Paris-Nanterre, vous êtes également responsable du centre d'études équatoriennes. L'ex-banquier conservateur qui bat la gauche socialiste qui était pourtant arrivé en tête au premier tour avec près de 33% des voix. Peut-on parler de surprise d'abord?
Alors on peut parler d'une surprise puisqu'en effet, au début du processus électoral, c'était le candidat coréiste, donc Andrés Arauz, qui était donné largement favori. À l'issue du premier tour, il était d'ailleurs arrivé en tête avec 32% des voix, alors que Lasso, donc le président finalement élu, arrivait véritablement avec difficulté à la seconde position, une position qui a été d'ailleurs très discutée et polémique, puisque jusqu'à assez tardivement, on n'avait pas su si c'était lui qui se retrouvait face à Arauz au second tour ou bien le candidat Yacu Pérez pour le parti Pachacuti. C'est dire à quel point
finalement il est entré par la fenêtre de ce second tour et à quel point il a su renverser la table.
Exactement. C'est-à-dire qu'au second tour, il a fait une excellente campagne, en ce sens qu'il a su tirer toutes les leçons des surprises du premier tour. Il a su capter les attentes qui étaient exprimées par deux surprises. La première, c'était l'excellent score de Pachacuti, qui est donc le bras politique de la CONAIE, le mouvement indigène, puisque ça s'est joué de très peu entre les deux candidats, Lasso et Yacu Pérez pour Pachacuti. L'autre surprise, c'était plus de 15% réalisé par un vieux parti socialiste, la gauche démocratique, Izquierda Democrática, avec à sa tête un candidat très peu connu, Javier Hervás, qui se positionnait comme progressiste, homme d'entreprise, connaisseur du terrain et surtout tout très proche des citoyens. Et M. Lasso a donc complètement réorganisé sa campagne de second tour. Il a débauché, enfin il a engagé le directeur de campagne de Javier Hervás, de la Izquierda Democrática, qui était une campagne très axée sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et voilà M. Lasso qui en effet a une image très liée à la banque, de conservateur, il est de l'Opus Dei, conservateur aussi sur les questions de société. Et bien le voilà, grâce à cette campagne sur les réseaux sociaux, bénéficiant finalement d'une stratégie politique qui vise, et il l'a dit lui-même, à aller à la rencontre des Équatoriens. Il a donc changé de slogan et son slogan c'était « El Ecuador del Encuentro », l'Équateur de la rencontre.
Mais sur le fond, est-ce que ça veut dire qu'il a réussi finalement aussi à convaincre ou bien finalement n'a-t-il fait que fédérer ceux qui étaient contre son opposant Andrés Arauz au second tour ?
Je pense que c'est la deuxième solution. Sur le fond, son programme, c'est son programme du premier tour, notamment en termes d'économie, il l'a ouvert. C'est-à-dire que sont apparus de nouveaux thèmes. Araou, ça fait exactement la même chose aussi. C'est-à-dire que de nouvelles questions qui étaient tout à fait secondaires au premier tour sont apparues des sujets très peu importants au premier tour. L'écologie, la question du genre, avec notamment des politiques de protection des droits des femmes, de lutte contre les féminicides. Alors les deux candidats, Araou et Lasso, se sont bien gardés de poser la question de la dépénalisation de l'avortement. Mais derrière, c'est bien l'enjeu, c'est-à-dire qu'il a su, le candidat Lasso, se présenter finalement comme quelqu'un qui ne partage pas certaines convictions, mais qui est prêt toutefois à les écouter, voire à les entendre.
Et il s'est posé d'ailleurs en rassembleur, hein, dès hier soir, le nouveau président Guillermo Lasso. Je vous propose d'écouter ce qu'il déclarait une fois sa victoire annoncée.
Je n'arrive pas au pouvoir avec une liste de personnes à poursuivre ou emprisonner. Je veux que tous les Équatoriens soient libres, tous. Qu'ils n'aient pas peur du gouvernement, ni de ne pas être d'accord avec le président de la République.
Votre réaction, Emmanuel Sinardet, à ces propos ?
Alors, par ce discours, il s'adresse à deux cibles. La première, c'est les leaders des mouvements sociaux. Il y a eu un phénomène de criminalisation des mouvements sociaux, indigènes, syndicalistes, sous le coréisme. Et là, il leur donne en quelque sorte une garantie, on va dire garantie de respect. C'est le premier point. Le second point, et la seconde cible, ce sont les coréistes. Sous le gouvernement de Lénine Moreno, il y a eu de nombreux procès contre d'anciens ministres ou proches de M. Correa. M. Correa lui-même a été poursuivi pour des cas de corruption. Par ce discours, M. Lasso donc, s'adresse finalement à ceux qui vont faire partie, on peut le supposer, de son opposition politique, en disant qu'avec lui, le style de gouvernement va complètement changer.
En effet, 48% hein, donc, pour Andrés Arauz et donc pour les coréistes dans ce second tour de cette présidentielle. Finalement, vous nous parliez aussi du mouvement indigène qui représente aujourd'hui une véritable force politique. Tout ça nous fait dire que ce n'est pas un blanc-seing qui a été donné à la droite hier pour diriger l'Équateur.
Pas du tout, je dirais même que ce n'est pas une victoire de la droite, c'est une victoire, c'est un rejet, on va dire, du coréisme, c'est certain, mais c'est plutôt un vote qui espère des mesures de type progressiste.
Et sur là, l'environnement, sur les questions sociales, comme vous le disiez.
Exactement, exactement. Et un État qui se soucie du bien-être des concitoyens, on pense à l'effet aussi de la pandémie, où la gestion sanitaire a été assez catastrophique, il faut bien le dire. À ce jour, on n'a toujours pas de plan de vaccination clairement établi. Et là, les citoyens attendent du gouvernement eh bien, qu'il joue un rôle de protecteur, avec bienveillance. Et c'est cette position qu'a su peut-être mieux occuper M. Lasso, par rapport à son rival, M. Arauz.
Il a promis, vous évoquez la vaccination, justement, d'accélérer cette campagne de vaccination contre le Covid. Il a aussi promis beaucoup de choses, créer 2 millions d'emplois, atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 4 ans dans un pays qui économiquement est ravagé. La tâche s'annonce particulièrement difficile, d'autant qu'il n'a pas les mains libres. Au mois de février, le Congrès à une chambre a été réélu. Il n'a pas de majorité, Guillermo Lasso, il faut bien le dire.
Il faut bien le dire, il a à peu près une vingtaine de sièges. La majorité est à 67 sièges. Mais personne n'a la majorité. Les candidats coréistes ont obtenu 48 sièges, ils n'ont pas la majorité, et vient de se former, il y a quelques jours, un bloc qui se présente comme progressiste, qui s'appelle Minka, et qui est une alliance entre Pachakutik et la Izquierda Democrática. Et finalement, eux ont 58 sièges, mais pas une majorité claire. Ça veut dire que Lasso va être obligé constamment de négocier. Il s'est fait élire sur cette promesse de l'équateur de la rencontre. Et bien, maintenant, il va falloir que ces mots ne restent pas une vaine promesse et qu'il soit capable, sur le terrain, de négocier. Et avec des positions qui sont, malgré tout, assez anti-néolibérales, comme l'ont montré les mobilisations d'octobre 2019. C'est un sacré défi.
Un sacré défi, en effet, pour Guillermo Lasso, qui prendra ses fonctions le 24 mai prochain. Merci, Emmanuel Sinardet, professeur de civilisation latino-américaine à l'Université Paris-Nanterre. Les Péruviens, eux, devront attendre le 6 juin prochain, date de leur second tour, pour connaître leur nouveau président. Quelle en sera l'affiche ? Le premier se tenait hier. On n'a toujours que des résultats partiels et c'est extrêmement serré. Harim Lipold, au dernier des comptes, avec à peine plus d'un tiers des bulletins dépouillés, c'est Pedro Castillo de la gauche radicale qui arrive en tête devant l'économiste libéral Hernando de Soto.
Oui, exactement. Et selon un sondage sorti des urnes publié ce matin par le journal El Comercio, Pedro Castillo devrait disputer le second tour avec Keiko Fujimori, la candidate de la droite populiste créditée d'environ 14% d'après ce même sondage, donc sorti des urnes. Ces résultats partiels ont suscité en tout cas des réactions très diverses. Le journal Correo a recueilli le témoignage de certains habitants de la capitale Lima, choqués, comme écrit le journal, par la victoire du candidat de la gauche radicale, une victoire qui était en revanche célébrée par ses sympathisants dans la ville de Cajamarca, le bastion du candidat, écrit Correo. Selon La Repubblica, Pedro Castillo peut s'appuyer sur un électorat rural et une partie de la population séduite par ses promesses radicales, selon le journal. Le vainqueur du premier tour a déjà remercié ses électeurs. C'est à la une du journal Espresso. Le peuple s'identifie à une personne qui elle-même est issue du peuple, a déclaré Pedro Castillo, cité par Espresso.
Et on reviendra bien sûr sur ces résultats au Pérou quand ils sont un petit peu plus définitifs. Merci beaucoup, Harim Lipold.
Le journal de l'Outre-mer.
Et sans tarder, c'est Benoît Ferrand que l'on retrouve. Comme les cyclones, les impôts, elles reviennent chaque année avec une régularité décourageante. Elles, bien sûr, ce sont les algues sargasses, Benoît.
Oui, bonjour Mickaël. Ces derniers temps, les algues brunes, ou plutôt marrons d'ailleurs, viennent en effet s'échouer en grand nombre sur la côte est, la côte atlantique de la Martinique. Résignés, les habitants du littoral se bouchent le nez ou s'enfuient. Reportage au Marigot et au Robert, signé Christine Cupit.
Le répit aura été de courte durée pour les habitants du littoral. Depuis le retour des sargasses sur les côtes, le calvaire a recommencé. Au Marigot, les riverains situés sur le front de mer n'en peuvent plus.
Il n'y a pas longtemps, on s'est enfermé dans la maison parce que l'odeur montait vraiment. Donc le matin au réveil, c'est désagréable. On n'a pas la possibilité de sortir comme on veut. C'est invivable.
Même situation au Robert, quartier Pontalléry. Depuis des années, les habitants sont incommodés par les émanations de gaz causées par les sargasses en putréfaction.
Au niveau de la santé, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a les yeux qui grattent, le nez, la gorge qui brûle.
Ceux qui le pouvaient ont quitté leur domicile pour s'installer loin des algues brunes. D'autres ont réaménagé entièrement leur maison, comme Max Marilus.
J'ai tout modifié, vous avez bien vu, c'est fermé de partout. Bon, j'ai vitré en partie et tout, pour éviter l'odeur justement et puis l'émanation des gaz. En 2018, on avait par exemple 150 mètres de sargasses, sans voir la mer du tout. C'était une dure réalité pour nous. Hein.
L'invasion des algues n'est pas aussi importante qu'en 2018, mais pour les riverains, c'est une de trop.
On reste dans le domaine maritime avec cette question. La petite pêche côtière a-t-elle encore un avenir en Guadeloupe ? Pour certains spécialistes, la réponse est tout simplement non. Non, car les eaux tout autour de l'archipel guadeloupéen se révèlent au fil du temps de moins en moins poissonneuses. Écoutez Xavier Deloux, chef du pôle marin au sein du Parc national de la Guadeloupe, au micro de Ronan Ponnet.
Je vais prendre un exemple qui va parler à tous les Guadeloupéens, c'est les poissons perroquets. Les poissons perroquets commencent leur cycle de vie femelle et quand ils vieillissent, ils deviennent mâles. Si on pêche les perroquets, ils n'ont jamais le temps d'être mâles. Donc un des rôles des zones interdites à la pêche, c'est que les poissons ont le temps de vieillir et donc d'avoir des mâles. Et donc ces mâles permettent de faire de la reproduction avec les femelles qui existent autour. Sans zone protégée, on a plus. Si on, imaginons qu'on n'ait plus de mâles de perroquets, ben on n'aura plus de perroquets non plus à consommer. On passe d'un mode de pêche solitaire, artisanal, familial. Le père formait ses enfants, la maintenant, c'est plus possible dans ce cadre-là. Côtier, le pêcheur guadeloupéen doit évoluer vers une entreprise structurée, intégrée dans une filière, en allant chercher la ressource beaucoup plus au large qu'actuellement.
Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, à vous et aux équipes de La Première. Pour conclure ce journal d'Haïti et des Amériques qui a été réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Très bonne journée à tous et à demain sur RFI.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.